Lisons-le. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Le livre d'Apocalypse est fait de symboles et de signes. Jean y utilise un langage hautement figuratif afin de décrire la grande apostasie, la période sombre et le triomphe de l'évangile éternel du Christ qui apporte le salut à quiconque croit et obéit à ses enseignements. Cet évangile sera prêché jusqu'à son retour. Le Fils de Dieu ne reviendra pas pour fonder un royaume, mais au contraire pour remettre un royaume déjà établi à celui qui est Dieu et Père. Ensuite viendra la fin. Les 1000 ans dont parle Apocalypse 20 sont une figure représentant une victoire complète sur la persécution des païens. Le règne dont ce passage parle n'est pas celui du Fils de Dieu, mais plutôt un règne de chrétiens martyrisés avec Christ. L'expression 1000 ans n'a absolument rien à voir avec un millénium et ne se rapporte pas à une période terrestre de temps. L'existence d'un pré-millénium serait la négation même du règne actuel du Christ. Ces adeptes soutiennent que le royaume annoncé à la fois par Jean-Baptiste et par Jésus a été rejeté par les Juifs et que cela a ipso facto retardé son établissement. En conséquence de quoi, Jésus s'est vu contraint de retourner au ciel où il est assis, à la droite de Dieu, non comme roi mais comme prétendant rejeté, attendant de devenir souverain. Cette théorie, qu'on peut qualifier de fantaisiste, suscite d'emblée les réflexions suivantes. Premièrement, dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, le Christ est appelé le prince de tous les rois. Il est également stipulé que tous les chrétiens forment un royaume de sacrificateurs. Deuxièmement, dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, il est dit que Jésus a fait de nous un royaume. Le temps utilisé est le passé simple. Cela est par conséquent déjà fait. De plus, nous régnerons sur la terre. Ce règne avec Christ est donc situé dans le temps qui est en train de s'écouler et continue depuis l'époque où Jésus est devenu le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Ces passages s'harmonisent d'ailleurs parfaitement avec des versets tels que 1 Corinthiens 15, 20 à 25, Actes chapitre 2, versets 34 à 35, Hébreux aussi, chapitre 1, versets 3 et 13, qui démontrent sans aucune ambiguïté que le règne du Christ dure sans interruption depuis le temps de son ascension au ciel jusqu'à la fin du monde. Troisièmement, l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 26, révèle ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort ne sera donc pas détruite avant que la dernière personne ne soit ressuscitée. Or, la théorie du millénium prétend que les morts justes seront ressuscités au commencement du millénium, tandis que les passages que nous venons de lire montrent que Jésus va rester au ciel jusqu'à ce que la dernière personne soit ressuscitée. Cela nous amène à énoncer le raisonnement suivant. Si, comme l'affirment certains, le dernier être humain ne sera ressuscité qu'à la fin du millénaire, et si Jésus reste au ciel, comme l'atteste la Bible, jusqu'à ce que le dernier mort revive, cela signifie que Jésus doit rester au ciel durant ce fameux millénaire. Cela anéantit cette théorie, cette doctrine. Si Jésus n'est pas sur son trône maintenant, il n'aura donc jamais de trône. Le Nouveau Testament enseigne sans aucun doute possible que l'actuelle dispensation représente les derniers jours ou les derniers temps. Autrement dit, la dispensation de l'Évangile. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2 nous dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Mais si Jésus doit régner durant 1000 ans sur terre après cette dispensation, on voit mal pourquoi le Nouveau Testament la qualifie de dernier temps. La doctrine du millénium enseigne que les justes ressusciteront au début du millénium et les injustes à la fin de cette période de 1000 ans. Cela s'oppose à ce que dit Jésus en Jean chapitre 6, versets 39 à 44, où il affirme qu'il ressuscitera au dernier jour, quiconque a la foi en lui. Ce dernier jour représente, et personne ne peut le nier, la fin de la dispensation de l'Évangile. Mais une fois de plus, on peut s'interroger. Si la résurrection des justes aura lieu le dernier jour, comment pourrait-il exister mille ans après le dernier jour? Si cela était vrai, l'Évangile serait un faux et le Christ rien moins qu'un fief menteur. Les partisans du millénium enseignent, comme nous venons de voir, que les justes ressusciteront au début du millénium et les méchants seulement mille ans plus tard. Je vous propose à ce sujet de lire Jean chapitre 5, verset 28. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Qu'en dites-vous? Où se trouve donc un millénium dans ces paroles de Christ? J'affirme que cette théorie du règne de mille ans fait de Dieu un parjure. En effet, à un moment donné, le royaume a été promis par l'Éternel. Écoutez plutôt Marc chapitre 1, verset 14. Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Un peu plus tard, Jésus dit encore ceci à ses disciples. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Des milliers de personnes de Jérusalem, de Judée et des contrées situées dans la vallée du Jourdain obéirent à ce message, à cet évangile de l'établissement du royaume ou de l'Église. Ils furent baptisés car elles croyaient à cette promesse du fond de leur cœur. Et on voudrait nous faire croire que Jésus a dû retarder la fondation de son Église à cause de l'incrédulité des Juifs? On voudrait nous faire croire qu'il se serait trouvé dans l'obligation de dire à tous ceux qui s'étaient donnés à lui, « Oh, je m'excuse, mais je ne peux pas vous donner ce que j'avais promis, je vous le donnerai plus tard, quand je le pourrai. » Oh non, je me refuse d'accepter de telles inepties, de telles absurdités. Chers auditeurs, vous avez trop de bon sens, vous êtes trop doués, vous avez trop de lucidité pour croire à tant de fables, de théories et de spéculations. En guise de conclusion, disons ensemble un avertissement solennel, lancé il y a bientôt 2000 ans par l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Où sera votre âme ce jour-là? Du côté de la parole de Dieu ou de celle des hommes?
Alléluia, alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchand, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms, qui ne sont attachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout, et le Nouveau Testament, notre unique chef, Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres, sont autorité. Parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse-Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique. Boîte postale 2398-31086,